Léa,
Clément,
Miley,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Chad.
À la jeunesse, à la jeunesse,
les micros.
Making Waves.
Sonneau Maujat, Avignon.
Présente.
À la jeunesse,
les micros.
Au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Les microphonettes, l'Ichabem.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes en direct du Festival d'Avignon pour une 9e émission de À la jeunesse, les micros. Le don du vide.
Ribatul Farah.
Ce sont les mots de Mohamed Bennis, poète marocain. Pour Bennis, le concept de vide n'est pas un manque, mais plutôt une richesse intérieure, un espace de paix qui favorise l'expression poétique. En parallèle, les mondes virtuels émergent d'un vide numérique, une sorte de page blanche, façonnée par le code que les créateurs remplissent. Les utilisateurs s'y plongent pour construire, explorer et interagir. Bien qu'immatériel, ce non-lieu peut étonnamment générer des expériences profondes. Comment ce vide numérique, binaire et apparemment froid, peut-il devenir un sanctuaire d'expériences intenses et une quête de soi ? L'immersion dans un monde virtuel peut-elle vraiment évoquer le don du vide poétique ? Entre pseudonymes, métavers, avatars et réalité augmentée, chacun est libre de se créer son univers à soi. Pourtant, être hyperconnecté peut être dangereux. Cela peut nous enfermer et réduire la visibilité des informations. Je pense aux opinions polarisées, aux pertes de nuances et aux manipulations des masses. Comment parvenir à penser par soi-même quand l'algorithme ne nous montre qu'une facette ? Comment rester connecté à la réalité ? Dans cette émission, on va discuter de ces nouveaux mondes virtuels. On va parler de désinformation, de réseaux sociaux et de lutte. Dans un premier temps, nous recevons Raphaël Arnaud, député. Et dans un second, trois membres de la compagnie Le Souffleur de Verre, Julien Rocha, Fanny Caron et Ayoub Kalouchi. Je m'appelle Nil Léonce et suis entouré de Léa, Martin, Imen et Noan. À la réalisation, Kautar et Joyce. On peut y aller.
À la jeunesse, les micros.
Bonjour Raphaël Arnaud, comment ça va ?
Bonjour, ça va et vous ?
Merci. À merveille, écoutez, ravi d'être votre hôte, si je puis dire.
Vous avez eu une jeunesse marquée par la politique. Vous avez 30 ans, vous êtes le cofondateur de la Jeune Garde antifasciste dont vous étiez porte-parole. Oui, enfin, qui, on en parlera sûrement plus tard dans l'émission, vient d'être dissoute par un certain Bruno Retailleau. En 2024, vous avez été élu député de la France Insoumise, nouveau front populaire, face à la députée RN sortante, Catherine Jaouen. Une grande victoire ici même pour vous dans le Vaucluse à Avignon. Merci.
Depuis votre élection, toute la fachosphère a voulu vous abattre. Les médias comme Bolloré, JDD, Ouest France, Europe 1 et Frontières. En juin 2024, Blast écrit que vous êtes, je cite, « diabolisé sans preuve avec une vague de haine, de fake news relayée par le paysage audiovisuel ». Aujourd'hui, dans notre 9e émission, on parle de monde virtuel, de fake news, de complotisme, de militantisme qui forme le désespoir politique de la jeunesse. Un sentiment d'impuissance, de solitude et un écart qui se creuse entre vie de gens et sphère de décision. On est ravis que vous soyez présents avec nous aujourd'hui. On y réfléchissait en préparant l'émission et ici, chacun et chacune a sa façon d'appréhender la politique. Mais on a aussi des manières différentes de s'informer. Je suis un peu curieux, moi j'aimerais savoir pour commencer, comment vous vous informez Raphaël ? Est-ce que ça a changé depuis que vous êtes député ? Comment je m'informe ? De plein de manières. Évidemment, déjà le bouche à oreille, c'est très bête, mais c'est une des premières informations de l'être humain, c'est-à-dire par la parole, hein, ni plus ni moins. La famille, les proches, évidemment, les camarades avec lesquels on milite. Les députés, les collègues députés, etc. Donc c'est beaucoup d'informations qui passent par ce biais-là. Évidemment, lorsqu'on a un doute, lorsqu'on a des questionnements, on va plus loin, on creuse à travers différents articles de presse, ça va de soi, et évidemment sur les réseaux sociaux aussi, qui devient aujourd'hui une des sources d'informations principales pour tout un tas de jeunes. Et évidemment, j'en fais aussi partie, avec toute la prudence que ça demande, toute la vigilance, mais peut-être on y reviendra dans la discussion, mais aussi chez les médias traditionnels, malheureusement aujourd'hui, il faut faire preuve d'une très grande prudence. Enfin, il a toujours fallu en faire preuve, mais encore plus peut-être aujourd'hui. Okay, moi, ça fait 2 ans que je vis en Seine-Saint-Denis et j'ai été politisé qu'à partir du moment où je suis arrivé à Paris. En parlant avec des gens, en étant en contact direct, en manifestation, à République par exemple. Et il y a vraiment un fossé qui se creuse entre la campagne et Paris, je trouve, qu'on prend pas assez en compte. Et j'ai peur des jeunes qui commencent à voter à droite. Il y en a énormément qui se laissent berner par les discours de Le Pen et les TikTok de Bardella. Comment on fait pour renouer avec ces personnes-là? Comment on fait pour se parler les uns les autres?
Souvent, il y a ce débat en réalité qui revient de comment est-ce qu'on s'adresse à la droite, comment est-ce qu'on s'adresse à l'extrême droite, comment est-ce qu'on vient convaincre des gens qui sont adeptes de ces idées-là ou qui se sont laissés convaincre. Je pense que déjà, à la racine, on oublie une problématique et je ne suis pas en train de dire qu'il faut éloigner cette question-là. C'est juste que, au fin fond de la droite, dans son fonctionnement, c'est quand même l'idée de maintenir un ordre social en place. Il y a cette idée-là philosophiquement dans la droite, de dire que l'ordre social en place est bien, voire pas assez dur, pas assez répressif, donc aller encore plus loin dans le maintien de cet ordre social ou dans sa régression, etc. À l'inverse, la gauche vient systématiquement questionner cet ordre social, le remettre en question pour trouver des alternatives. Et donc, le débat est généralement beaucoup plus aisé à gauche, beaucoup plus facile à déclencher. Généralement, la plupart du temps, lorsqu'on observe des gens qui votent à droite, qui votent extrême droite, etc., on est souvent confronté à des gens qui ne veulent pas parler politique, qui ne veulent pas justement parler contradictions que pose cette société dans laquelle on est. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà plus difficile lorsque, par exemple, on fait du porte-à-porte lors d'une élection législative. Lorsqu'on est confronté à des personnes de droite, la plupart du temps, elles ne souhaitent juste ne pas parler. Et donc, le bulletin de vote sert à maintenir un système économique et social, quand bien même il serait inégalitaire en place, etc. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne rien faire. C'est-à-dire que dès qu'on en a l'occasion, au contraire, il faut aller provoquer le débat, aller le questionner. Et encore une fois, les trajectoires des gens qui finissent par être séduites par des idées de droite, etc., sont multiples. Et donc, c'est en comprendre la racine et aller questionner les contradictions internes. Moi, je pense qu'au cœur de toutes ces problématiques, il y a quelque chose qui revient systématiquement. Je réponds de façon très générale, hein, mais il y a la question de la dignité. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui se laissent convaincre par des idées droites, etc., finalement ont laissé la dignité de côté. Comme si on n'était plus maître de nos vies. Lorsqu'on travaille, par exemple, l'idée que de toute façon on ne comprend rien au système politique, on ne comprend rien à celles et ceux qui nous exploitent, bah, plutôt que de s'attarder à ces problématiques-là qui paraissent trop élevées, trop grandes, et bah, on va se concentrer sur notre petit intérêt individuel, etc. Et c'est ce qui fait que généralement des gens se tournent vers la droite. Et donc il y a une affaire derrière de dignité retrouvée, je pense, au fin fond de nos questionnements et de nos débats à remettre sur la table.
Moi, je suis né en campagne et j'ai grandi en campagne. Je connais la politique, je connais les personnages, mais j'ai quand même ce sentiment d'écart. Parce qu'en campagne, il n'y a pas des lieux comme exemple la place de la République, où il y a fréquemment des manifestations. Et j'ai l'impression d'avoir la force, l'envie de combattre dans la politique, mais de ne pas avoir la technique, de taper dans le vide, en fait, de taper dans le vent. Alors, je me demande comment, moi, qui suis né en campagne et grandi en campagne, comment je peux me battre?
Ouais, je suis pas un spécialiste de la ruralité parce que tout simplement j'en viens pas. Après, souvent il y a aussi beaucoup de fantasmes, hein, beaucoup d'instrumentalisation autour des campagnes, autour de la ruralité, parce que déjà il y a des ruralités, il y a des zones rurales qui sont très combatives, très en lutte, où il y a énormément de discussions politiques et de luttes, de manifestations, etc. Donc pas en faire un tout et un ensemble. Par contre, encore une fois, il y a la question de l'imposture, le syndrome de l'imposteur. Bon, cette question-là, en vrai, elle concerne toutes les personnes à qui on souhaite surtout écarter, mettre en seconde zone, leur faire comprendre que bah non, vous n'avez pas votre place pour vous exprimer ici, etc. Au contraire, et je pense que mon élection en fait partie. C'est pas pour individualiser le problème, hein. Il y en a tout un tas d'autres députés qui ont été des personnes qui ont marqué un peu ces dernières élections. Je pense à Rachel Keke, femme de ménage noire, qui a été élue en 2022. Pour nous, c'était un symbole immense. C'était de se dire, ah ça y est, à nouveau l'Assemblée peut redevenir quelque part, en partie, une représentation du peuple. Ça ne veut pas dire que, ça y est, tout sera réglé avec ces personnes, mais en tout cas, ça dit quelque chose de la société actuelle, et ça dit surtout que nous aussi, on est capable de le faire. Moi, il y a une personnalité politique qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est Olivier Besancenot. Il était postier, il avait une culture politique immense, il remballait des politiques qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, payés des je sais pas combien, bah, c'était une fierté immense pour nous. Se dire, ouais, il y a des gens, en fait, à qui on explique toute la journée, qui comprennent pas, ils comprennent pas ce que c'est, par exemple, la réforme des retraites, etc. Bah non, bah nous aussi, on sait mieux que personne, justement, la situation dans laquelle on est, et on n'est pas plus bête que les autres, donc voilà.
Moi, Raphaël, je viens du Maroc et chez moi, mais à la maison, on m'a pas forcément initié politiquement. Enfin, mon père est très apolitique, il aime pas parler. Donc, par exemple, moi, j'ai jamais voté et du coup, je suis jamais en manif ni rien. Mais parce qu'on me disait que ma voix n'allait rien changer de toute façon. Mais en fait, j'ai commencé à me déconstruire grâce à la musique, en cherchant des artistes et en comprenant leurs combats, etc. Et pour moi, jouer cette musique, c'était mes premières manifs. Pour vous, c'était quoi vos premières manifs?
Bah, la première manif, j'y suis allé très tôt. J'avais 6 ans ou 7 ans, je crois. C'est ma maman qui m'a emmené. C'était les manifs contre la guerre en Irak, du coup, à l'époque. Okay. C'était des manifs énormes. J'étais tout petit. C'était une manif pour la paix, entre guillemets, la paix dans le monde. Voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, on voit le climat un peu. Lorsqu'on manifeste pour la paix, tout de suite, c'est tout de suite moins drôle. Mais enfin bon. En tout cas, voilà les premières manifestations. Même si je viens pas d'une famille militante, et aussi, ça a été de multiples... T'as parlé de la musique. Moi, typiquement, le rap, ça a été... Là aussi, mes premières vraies manifestations, entre guillemets, d'entrée dans le monde politique. Et ça, ouais, ça en fait partie, je pense.
Et est-ce que vous pensez que c'est important d'inculquer ça, en fait, dans les familles, le besoin de dire qu'on n'est pas d'accord, en fait?
Ben, en tout cas, ce qui est certain d'un point de vue sociologique, c'est que la première socialisation politique se passe en famille. Donc tout ce qu'on dit en famille a des répercussions et des fois ça se voit pas forcément tout de suite. D'ailleurs on arrive dans une période très intéressante et qui nous intéresse nous directement la jeunesse, c'est qu'on arrive dans une situation où tout à coup la jeunesse a jamais eu autant de poids dans ses familles politiquement. Maintenant le nombre de jeunes qui expliquent aux parents ce qu'il faut aller voter ou qui montrent que bah non tu peux quand même pas voter Le Pen etc etc. On en a tout un tas d'exemples autour de nous. Je pense notamment à la question de l'IVG. Pendant des années le Sénat a refusé. À l'Assemblée nationale, on obtenait des victoires. Au Sénat, c'était systématiquement refusé, etc. Parce que c'est souvent des vieux. Bon, voilà, je vais pas rentrer en détail sur le Sénat, mais c'est pas forcément ce qui nous attrait le plus. Et en fait, c'est parce que des jeunes filles dans les familles ont fini par dire à leur oncle, à leur grand-père, à leur père, à dire bah, moi, en fait, je vais arrêter de venir te voir si tu refuses d'inscrire l'IVG dans la loi, etc. Bah, tout à coup, on a eu tout un tas de sénateurs qui étaient tellement mal à l'aise vis-à-vis de leur propre famille qu'ils se sont mis à... Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça pour vous dire qu'on rentre dans une époque où il y a tout à coup des jeunes, des fois, qui sont plus éduqués politiquement, qui sont plus avancés politiquement, et c'est pas méprisant quand je dis ça, mais qui, du coup, influent aussi sur leur famille. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut rentrer en guerre avec sa famille, etc. Pas du tout. Mais c'est vrai que dès qu'on en a l'occasion, si on en a la possibilité et que vous pensez que c'est nécessaire, il faut au contraire aller chercher le débat et espérer ramener à la raison lorsque on en juge nécessaire.
Personnellement, je suis arrivée à Avignon quand j'avais 7 ans. Donc j'ai vécu la majorité de ma vie ici et j'ai toujours grandi dans une ville où le RN était historiquement élu et très 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 présent. Et quand vous avez été élu, j'étais un peu en mode c'est trop bizarre, vous êtes un Pokémon très rare, on était très très heureux, mais je me suis dit, enfin moi, pour moi toutes les représentations, tous les personnages de gauche, ils venaient de la télé, et je voulais savoir à quoi elle ressemble votre vie de députée à Avignon. Est-ce que vous avez des amis, est-ce que vous avez peur de vous faire casser la gueule dans la rue ou pas du tout?
Oui. Non, mais c'est une bonne question en vrai. Bon, déjà, j'étais militant antifasciste de longue date, donc la violence en politique, malheureusement, j'ai toujours fait face, et des fois dans des situations très particulières. Hein, ils ont été jusqu'à aller chez ma famille, dans mon domicile à plusieurs reprises, etc. Donc évidemment, la violence en politique, c'est quelque chose à laquelle j'ai très vite été confronté, donc il n'y a pas de surplus ici à Avignon, je crains pas plus qu'ailleurs, etc. Par contre, c'est certain qu'on est dans des régions, notamment sur toute la partie sud-est, et ici particulièrement dans le Vaucluse, où les racistes sont en roue libre. Et ça, c'est dû à une histoire très particulière. À la fin de l'Algérie française, on a tout un tas de gens, notamment de l'OS, de l'organisation terroriste d'extrême droite, qui sont remontés, qui se sont implantés ici. Et par contre, c'est vrai que c'était assez surprenant de me dire, quand tu débarques ici, parce que j'ai de la famille ici, donc je venais très régulièrement dans le Vaucluse, c'était normal pour les racistes de s'afficher. C'est-à-dire que des collages du RN, ça se faisait en pleine journée, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai pas grandi dans des quartiers où c'était possible, ça. Donc aussi, on arrive avec toute cette fermeté, cette dureté antifasciste, j'ai envie de dire, et à raison, de dire, en fait, ça va pas se passer comme ça. Et c'est ce qui fait, je pense, parce que quand je suis arrivé ici, il y a tout un tas de personnes qui m'ont dit, waouh, mais c'est trop radical, ça fait peur, etc., etc. Je pense que, à l'inverse, ça a rassuré tout un tas de personnes qui étaient confrontées depuis des années à l'inverse, une radicalité énorme qui venait directement de l'extrême droite et qui avait très peu de réponses. Je suis en train de dire qu'il n'y en avait pas. Hein. Pas du tout, évidemment. Il y a plein d'exemples de luttes, de camarades qui mènent des combats depuis des années. Mais de fait, ça incarnait ça, cette élection. C'était l'idée de dire qu'on ne laissera plus un centimètre passer à l'extrême droite. Plus un seul. Et même un simple collage dans un quartier, ça ne passera plus. Et c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, chaque journée, si le RN vient coller dans un endroit d'Avignon, eh ben, le lendemain, on est là pour arracher. Ça peut paraître très symbolique, c'est très bête, mais ça fait partie un peu de notre parcours militant, et ça renvoie quand même beaucoup de choses dans cette situation. Je me souviens aussi, quand j'étais petit, je sais pas, on allait à Carpentras, par exemple, au cinéma, il y avait des racistes normaux, ils lâchaient des dingueries. Mais nous, on arrivait en mode, pars-toi de là, en fait, c'est pas ton pays, ça. Ça, c'est pas notre pays, ça. Donc, il faut leur expliquer qu'ils sont pas chez eux, ces gens-là, et qu'à l'inverse, nous, on est chez nous, on est très fiers de ce qu'on est. Bah.
Slay.
Eh bien, Raphaël Arnaud, pour faire baisser un peu la tension, on va vous proposer un petit jeu, un blind test.
puis Antifa.
Ça consiste en quoi? On vous passe un petit extrait et vous, vous devez de nous le commenter. Ça vous va?
Très bien.
Super. C'est parti avec le premier extrait. On commence facile.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Bon, ça fait 8 ans qu'il a crié « c'est notre projet ». Je sais pas vous, moi, j'ai toujours pas compris. Est-ce que vous savez c'est quoi son projet?
Bon, c'est assez terrible parce que vous disiez tout à l'heure pertinemment, bon, je viens de la campagne et des fois, je me sens pas en mesure de rentrer en politique ou de m'investir ou même de parler politique, etc. Je me sens pas légitime, entre guillemets, hein, pour reprendre un peu ce que vous disiez. Moi, je dis que c'est Emmanuel Macron qui devrait se taire. Et je préférerais avoir plus de gens comme vous qui vous expriment. Emmanuel Macron, c'est un espèce de mollusque politique, quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Sa seule conviction profonde, et c'est tout un programme politique d'ailleurs, c'est de préserver sa classe sociale, c'est de préserver la classe sociale des plus riches, et donc de toujours plus enrichir les plus riches. C'est ça le programme en réalité. Et le projet, c'était celui-là. Alors, il s'adapte selon la période, selon le climat médiatique et politique, et là, vous comprenez vite la période dans laquelle on est. Et donc, ce genre de mollusque invertébré politique, on en a connu au siècle précédent, déjà hein, à l'époque, à la montée du fascisme dans les années 30, etc. Et généralement, ils finissent toujours par rejoindre dans les bras, se jeter dans les bras, voire même donner les clés du pouvoir à l'extrême droite, quand bien même ils se présentaient faire partie d'un certain barrage, etc. Donc Emmanuel Macron, je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition que mollusque invertébré en politique. Et son seul projet, c'est de protéger les riches, et même plus que les protéger, les enrichir toujours plus.
Et surtout qu'il a été élu grâce à des riches, en plus de ça. Xavier Niel, Rahi...
Tout à fait, bah oui, évidemment qu'il y a eu une alliance de la bourgeoisie, en tout cas une grosse partie de la bourgeoisie qui s'est allée derrière Macron parce qu'ils ont bien compris le projet. Eux, pour le coup, ont tout à fait confiance dans leurs intérêts, contrairement à nous, où des fois on vient se tirer la bourre entre les cheminots, les soignants, les chômeurs, les jeunes, les retraités, etc. On essaye systématiquement de nous diviser entre nous, les travailleurs et travailleuses, et eux, pour le coup, ils ont parfaitement conscience de leurs intérêts, ils savent s'allier et produire des programmes communs.
Second extrait. Toujours très court et très facile.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Bon, la dissolution, ça date maintenant d'il y a un an. Ça a changé quoi?
Ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est de toujours dérouler le tapis rouge à l'extrême droite. Parce qu'en fait, là, on a entendu les mots d'Emmanuel Macron. On aurait pu écouter Jordan Bardella. La première personne qui demande une dissolution de l'Assemblée nationale au début des élections européennes, c'est Jordan Bardella. Il dit, si nous remportons ces élections européennes, et on savait qu'ils allaient les gagner au vu de la situation politique, ces élections européennes, il dit, Emmanuel Macron doit dissoudre l'Assemblée nationale.
Après, ça vous a fait élire aussi, cette dissolution?
Oui, après, je vous avoue que j'aurais préféré ne pas être élu plutôt qu'il écoute oui. Jordan Bardella, enfin. Par contre, effectivement, nous, on n'a pas peur des urnes, bien au contraire. D'ailleurs, si demain, il devait y avoir une dissolution, moi, c'est pas sûr que je sois à nouveau reconduit ou à nouveau élu. Voilà, on n'est jamais sûr de rien. Mais au contraire, la démocratie ne nous fait pas peur, les urnes ne nous font pas peur. Et on fera tout pour, évidemment, remener bataille de ce point de vue-là. Mais en tout cas, pas oublier que ça vient d'une demande directe du Rassemblement National. Et quand ça faisait quand même assez peur, cette décision d'Emmanuel Macron.
Bon, on passe au troisième extrait.
À tous. Je veux dire qu'avec Marine Le Pen, notre ambition dépasse celle d'un simple parti politique.
Mais ça veut dire quoi, dépasser l'ambition d'un simple parti politique, sérieusement? Est-ce que c'est passé à une dictature?
Je sais pas si on peut dire dictature là comme ça à la volée sur une phrase. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fascisme, au sens historique du terme, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire pas de gens seulement qui se réclament du fascisme, parce qu'évidemment que le RN, si on leur pose la question, ils diront non, on se réclame pas du fascisme, cherche systématiquement à dépasser ses outils organisationnels, en l'occurrence un parti et même l'État. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de partis réactionnaires depuis des années, d'ailleurs qui arrivent au pouvoir fréquemment. En France, on en a eu pendant des années, réactionnaires, etc. Mais qui se contentent de la bourgeoisie libérale dans laquelle nous sommes. Et ils se contentent aussi des biais démocratiques qui nous sont encore acquis dans cette société. C'est tout l'inverse chez l'extrême droite, c'est qu'à l'inverse, eux, ils veulent tout balayer. Ils veulent aller encore plus loin dans cette réaction. Et donc, ils sont prêts à remettre en cause même des outils qui leur étaient jusqu'ici favorables, même ça, ils veulent les balayer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Donald Trump aux États-Unis. Sa première mandature, lorsqu'il sent qu'il va perdre les élections, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à ses milices, il appelle aux masses à s'attaquer au Capitole. Donc on voit bien que voilà, il y a cette volonté de détruire encore une fois toutes ces institutions, quand bien même il leur était favorable durant des années. Et donc, je pense qu'il y a ça derrière cette phrase-là, c'est dire que ça dépasse le parti, ça dépasse la nation, ça dépasse le fascisme et un tout, et
donc
ils veulent tout avaler.
Voilà. Quoi.
On y va pour le quatrième extrait.
Je disais que je voulais un État fort, une France fière. Je pense que le Rassemblement National est très à gauche.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette personne? Dans quel monde il vit, lui?
Alors non, je ne sais pas qui a... J'ai pas reconnu la voix comme ça.
C'est Bruno Retailleau.
Ah bah...
pas très étonnant.
Moi, j'aurais pas reconnu.
Le Rassemblement National est très à gauche. Bon, on voit bien la confusion généralisée en réalité dans laquelle on est. Et peut-être d'ailleurs, ce sera un moment du sujet de la discussion, parce qu'à travers les réseaux sociaux, la désinformation, etc., l'extrême droite souhaite la confusion. Systématiquement, partout, à toute époque, à tout moment, ils veulent semer la confusion. À nous faire croire que les féministes seraient finalement les vrais sexistes. Que les antiracistes, finalement, ce seraient eux les racistes. Que les antifascistes, ce seraient eux les fascistes. Nous, on a vécu notamment récemment avec la dissolution de la Jeune Garde. Et c'était un peu les arguments qui étaient d'ailleurs amenés par Bruno Retailleau. Et on entend tout et n'importe quoi. Alors là, on a Bruno Retailleau, évidemment, qui est dans une course à la trumpisation. Et s'il n'est pas de droite, s'il n'est pas d'extrême droite, en tout cas, il est de droite extrême. Dire que le Rassemblement National est très à gauche, c'est quand même assez flippant. On a aussi Emmanuel Macron, qui a dit dans un de ses discours, je me souviens à la télé, le RN est un parti d'obédience marxiste. Il dit, finalement, le programme économique du RN, c'est un programme marxiste. Et là, on se dit, waouh, on a un président de la République qui est capable de nous lâcher des dingueries comme ça. Et imaginez la confusion un peu politique qu'il y a un peu dans, effectivement, dans la situation. Et ça, ça profite systématiquement à l'extrême droite.
L'extrait numéro 5, s'il vous plaît.
Ça vous rappelle votre enfance, Raphaël ?
Enfance, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas jeunesse, oui. J'ai baigné très tôt dans l'antifascisme parce qu'on y a été confronté. Lorsque j'avais 15 ans, en 2010, j'étais parti à la manif des retraites. Ma mère y était en tant que syndiquée.
Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit tous ensemble de Siamo sur l'antifascisme?
Si vous voulez.
Let's
si
go
voulez.
Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti.
Merci beaucoup. Ouais.
Making Waves Avignon présente.
Alors, Raphaël Arnaud, moi j'ai envie de vous parler d'indignation. Il y a Fatima Mernissi, qui est une sociologue marocaine et humaniste dont on a parlé hier dans l'émission. Elle dit que la dignité, c'est d'avoir un rêve. Un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. Est-ce que vous, il y a un moment où vous vous êtes senti indigné dans ce sens où on vous dérobe vos rêves ou votre force ?
J'ai envie de dire malheureusement trop souvent. Trop souvent, même là, avec les récentes annonces de Bayrou, alors qu'on aurait tout à repenser dans ce monde, dans notre rapport au travail, dans notre rapport à l'exploitation, dans notre rapport à l'aliénation au travail, etc. On vient nous expliquer qu'il faudrait faire toujours deux fois plus pour gagner deux fois moins, et surtout pour enrichir les gens qui ont déjà tout et qui ont déjà trop. Donc oui, on est tout le temps indigné. Il y a le génocide à Gaza. En fait, toutes les thématiques en soi, on a des indignations. Par contre, je rejoins parfaitement ce que vous venez de dire, notamment la citation. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec l'idée de la dignité, ça se rejoint. C'est l'idée de dire que oui, on a besoin de penser à un autre monde et d'avoir ces objectifs-là, non pas pour se faire miroiter un rêve qu'on n'atteindra jamais, mais parce que justement, eux veulent nous faire croire ça. Systématiquement. Ils veulent nous faire croire que, par exemple, aux dernières élections législatives, quoi qu'il arrive, le RN gagnera. C'est comme ça, c'est dans tous les récits. À tel point que ça rentre dans nos têtes. Ça y est, l'extrême droite, oubliez, restez à la maison. Ne vous préoccupez plus de la politique. Ça ne sert à rien de toute façon. Ils vont gagner. Regardez les sondages. Ils sont annoncés à 30, 40, 50%, etc. Ne vous intéressez plus à la politique. N'en parlez pas. On va s'occuper de vos affaires. Et c'est ce qu'on essaie de nous dire dès notre plus jeune âge. On est encore plus confronté en tant que jeune, même si on est confronté toute notre vie. Et c'est cette chose qu'on doit systématiquement changer. Et c'est pour ça que je parlais de dignité retrouvée à chaque instant, qui doit être présente dans toutes nos têtes à chaque fois.
À Saint-Denis, il y a beaucoup de saluts nazis. Récemment, il y en a eu plein. Vous avez vu ça dans votre jeunesse, lors de manifs contre la réforme des retraites. Comment on parle à des gens qui sont éloignés de nos valeurs, tellement éloignés de nos valeurs? Parce qu'on a reçu Sophie Binet, présidente de la CGT, il y a deux jours, et elle nous disait qu'elle elle allait plus sur les plateaux de CNews, qu'elle dialoguait plus avec l'extrême droite. Donc, par exemple, si vous croisez Jordan Bardella, est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait? Est-ce que vous échangez avec lui ou est-ce que les mondes sont trop éloignés?
Un petit café, peut-être.
Je crois que je l'ai croisé à l'Assemblée nationale, parce qu'il est venu à une réunion du groupe parlementaire du RN, et j'ai juste dit qu'il fallait rendre les plus de 4 millions d'euros qui avaient été dérobés, très simplement, dignement, justement on parlait de dignité. Et je pense qu'il faut distinguer...
Il vous a répondu ou...
Non, il a fait comme ça. non mais je pense qu'encore une fois, il faut systématiquement garder notre dignité. Et par contre, je pense qu'on fait une erreur, c'est que souvent, oui, il faut combattre l'extrême droite à tous les étages, et souvent, on met un peu dans le même panier. Lorsqu'on dit, bah, nous, par exemple, qu'on est intraitable avec des néo-nazis qui sont tatoués de la tête aux pieds avec des symboles SS, etc., qui s'arment pour aller attaquer des gens qui n'ont rien demandé dans la rue en raison de leur couleur de peau, origine supposée ou orientation sexuelle, etc. Bref, ces gens-là, difficile d'aller proposer là, un débat ici, par exemple, au Festival d'Avignon. Je pense qu'il faut les faire reculer, ni plus ni moins, tout faire pour qu'ils arrêtent leurs attaques, tout faire pour qu'ils arrêtent de militer avec leurs idées haineuses, etc., à différencier quand même de quelqu'un, par exemple, j'en sais rien, qui ne va pas avoir d'activité politique, qui est prête à faire mal aux gens et qui vote RN, par exemple. Ça, évidemment, là, il y a du débat. Il faut questionner, interroger, en ne lâchant rien, évidemment, sur nos idées, etc. Mais voilà, c'est différentes stratégies à chaque fois. Mais évidemment, face à des groupes nazis armés et qui veulent en découdre, bah, faut se défendre, ni plus ni moins. Quoi. C'est ce qu'on a toujours défendu et c'est ce qui fait partie de notre histoire commune du mouvement ouvrier. On a souvent la sensation que le fascisme est arrivé dans les années 30 comme ça, boum, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. C'est faux, c'est historique à notre mouvement ouvrier de s'être défendu en Italie, notamment par la jeunesse en premier lieu, avec des organisations d'autodéfense, etc., qui ont d'ailleurs en France conduit au front populaire, à l'époque. On parle souvent d'unité, etc. L'unité est née dans les organisations d'autodéfense socialistes, communistes à l'époque, sur le pavé, face au groupe d'extrême droite, parce qu'on sait mieux que personne que l'extrême droite ne fait pas le tri entre nous une fois au pouvoir. Voilà.
Avant de continuer, je vous propose qu'on écoute une chronique qui rappelle les inégalités de traitement selon sa place dans la société.
À la jeunesse, les micros !
Les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Tu as 20 ans, tu habites Laval, une ville de 53 000 habitants où tu es né.
Tu as 58 ans, tu habites une demeure cossue, à côté du Mans, tu as une femme et 5 enfants.
Un jour, tu coupes les liens avec ta famille, tu vis maintenant dans la rue.
Ton foyer est stable, tu payes des études prestigieuses à tes enfants, tu leur offres ce qu'ils veulent.
Tu es pauvre, tu as faim, pour survivre, tu demandes de l'argent, tu voles.
Tu es déjà fortuné, mais tu crées des emplois fictifs pour enrichir d'autant plus ton foyer.
Tu as volé un portefeuille dans une salle de sport, tu as refusé de payer un taxi. Ton escroquerie a une valeur de 130 euros.
Tu as détourné des fonds publics pendant environ 15 ans. Ton escroquerie s'élève à plus d'un million d'euros.
Tu es un jeune précaire, sans emploi ni logement stable.
Tu es un ancien Premier ministre, un ancien député, un élu, un nanti.
Tu as reconnu les faits et plaidé la survie.
Tu as nié, malgré les preuves documentées.
Ton procès est rapide, tu as un avocat commis d'office.
Ton procès est long, tu fais appel, tu es défendu par des avocats prestigieux.
Tu es condamné à 6 mois de prison ferme avec exécution immédiate.
Après 5 ans de procédure, tu écopes d'un an ferme aménagé avec bracelet électronique.
Tu es incarcéré en cellule.
Tu n'as passé aucun jour en prison.
Tu restes invisible, anonyme et précaire.
Tu restes connu et convié. Ta retraite est élevée. En tant qu'ancien Premier ministre, tu coûtes à la collectivité.
Ton nom n'est pas divulgué, mais tu pourrais être Léa, Rémi, Maya, Carla ou encore Cali.
Ton nom est célèbre, tu t'appelles François Fillon, mais tu pourrais être Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy ou encore Claude Guéant.
Sommes-nous tous vraiment égaux devant les lois ?
Raphaël, vous comprenez que lorsqu'on est face à ça, il y a la différence de traitement gigantesque. Par exemple, Marine Le Pen, vous en parliez tout à l'heure, qui vole 4 millions d'euros, ce qui équivaut à bosser pour nous 300 ans au SMIC. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à la politique après ça ?
Être vigilant et méfiant envers la politique, j'ai envie de dire, il faut toujours l'être. Et c'est ce qui fait c'est ce qui rend d'ailleurs la démocratie saine. C'est si on est vigilant à chaque instant sur ce pour qui, ce pourquoi on a voté, si possible qu'on ait une capacité aussi révocatoire sur les élus. Nous, ça fait partie notamment de nos revendications. L'idée qui est la question révocatoire. Alors forcément, il y a la question de l'efficacité politique, de mener des programmes à bien et donc de pouvoir mener ces programmes à bien, etc. Mais la question de la révocation, je pense, se pose dans ce genre de moment. Et après, dans les différents échanges que j'ai pu entendre, il y a la question de la justice qui s'est posée, de l'état de droit, etc. Évidemment que des fois, on a la sensation d'être face à une justice à deux vitesses. On est encore dans un état de droit, tant mieux, on doit se battre pour ça, on doit se battre pour les outils encore qui nous restent à disposition pour faire vivre la démocratie et la justice et l'égalité, mais elle est souvent biaisée, cette justice et l'égalité. Et justement, reprenant cette question de Marine Le Pen quand même a poussé pour ce qui est son appel au bout d'un an, je crois, il va avoir lieu là, voilà, en 2026. Ça n'arrive jamais, ça. Vous faites un appel en justice, c'est au bout de 2-3 ans, etc. C'est parce que c'est Marine Le Pen. Donc là, même dans cette affaire, quand bien même elle a volé 4 millions d'euros, etc., elle a crié au scandale, même dans cette affaire-là, il y a encore une fois des privilèges qui lui sont accordés. Nicolas Sarkozy, j'en parle même pas. Il s'est baladé en scooter sans casque hier encore avec Carla Bruni, alors qu'il n'aurait rien à faire en liberté, mais bon.
Raphaël, au milieu de tous ces clashs idéologiques, on trouve toujours des petites communautés un peu partout dans le monde qui, eux, ils sont contre ces systèmes imposés et qui cherchent des nouvelles manières de vivre. Ils sont en autogestion, ils luttent ensemble, ils vivent ensemble, communiquent, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir dans ce type d'organisation ?
Est-ce que vous avez des exemples précis ?
Exemple précis, moi j'habite à Florence et il y a un espace qui s'appelle la Polveriera là-bas qui est autogéré par des gens et qui se développe comme ça et qui est une communauté qui grandit à chaque fois. Après il y a aussi des squats en Belgique, en Allemagne, etc. où il y a vraiment plein de communes. Il y a même des communes ici en France. Enfin, j'ai une amie à moi qui vit comme ça, mais ils sont tout le temps suivis par, par les gens.
Oui, bon, effectivement, en Italie, je comprends mieux la référence, parce qu'en Italie, il y a beaucoup ce genre de fonctionnement, d'ailleurs, à travers des centres sociaux, etc., qui se développent un peu partout. Je pense que c'est des exemples très intéressants d'autonomie, en réalité, de notre propre conviction et notre capacité à nous organiser soi-même dans la société, etc. Par contre, le pendant de ce genre d'expérience, c'est qu'il faut être toujours vigilant à ne pas être déconnecté du reste de la société. Et ça, c'est le rôle du politique, de systématiquement faire tout pour que nos idées, nos espaces communs soient le plus ouverts possible. Et c'est, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, je dis juste que ça peut être une des tangentes. C'est lorsqu'on est bien entre nous, lorsqu'on dit « ouais, mais nous, regardez, on arrive à faire tout un tas de choses, de solidarité entre nous, etc. » c'est finalement de créer un cocon tellement isolé que du coup on en vient à se déconnecter de la société et donc oublier de répandre le plus possible nos idées et de convaincre un maximum de monde. Voilà ce que j'en pense.
Et justement, vous parlez de cocon, de déconnexion. C'est quand le dernier moment où vous êtes senti libre, enfant, je veux dire, pas là à militer tout le temps? C'était quand la dernière fois?
En vrai, j'ai encore des espaces de liberté, hein, même s'ils sont moins en moins nombreux. Enfant, je dirais, c'est l'été. Dans la nature, voilà, ni plus ni moins. Notamment ici dans le Vaucluse, j'y ai passé beaucoup de temps. C'est vraiment dans ces moments-là où je me sentais le plus libre et on faisait plein de trucs. Et justement, encore une fois, on pourrait... désolé, à chaque fois, je prends beaucoup la parole, mais on pourra en discuter longuement, mais notre rapport au travail, notre rapport aux choses, etc., on essaie systématiquement de nous faire croire, nous, qu'on serait incapable de faire autre chose que d'être exploité au travail, etc. On se rend compte que même enfant, même dans des situations de vacances scolaires, etc., en fait, on pense systématiquement à créer des choses, je me souviens, à travers une cabane, un barrage, peu importe, on s'en fiche. C'est des petites expériences comme ça humaines, mais qui nous montrent que non, l'humain, il est plein de ressources, plein d'envie de construire, de faire des choses. On se levait le matin, on faisait plein de choses, enfin bref, peu importe. Donc voilà, surtout pas penser que l'humain est conditionné à être exploité et seulement à ça.
On a parlé de pas mal de points de vue, les amis. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour qu'on ne s'assèche pas trop la gorge. Léa, tu peux t'en occuper, s'il te plaît ?
Oui, Neil, je peux. Bonjour, Thomas Pitiot. Vous êtes musicien originaire de la banlieue parisienne, mais maintenant vous habitez à Avignon. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous allez bien ?
Premier.
Donc vous êtes à Avignon pour le festival Contre-Courant, c'est un festival d'art vivant avec de la musique, du théâtre, beaucoup beaucoup de choses. C'était le dernier jour hier, ça s'est bien passé.
Super.
Et globalement, c'était une bonne ambiance.
Moi, je vis un festival un peu paradoxal, parce que j'habite Avignon toute l'année et j'observe un petit peu les dynamiques spéculatives qui sont à l'œuvre. J'ai un beau t-shirt, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a écrit « J'habite Avignon, mais je ne spécule pas en juillet ». Voilà, ça veut tout dire. Donc voilà... Malgré l'engouement qu'il y a pour la culture, on se bat aussi avec les camarades de la CGT Spectacle pour asseoir nos valeurs, nos revendications et être vigilant au fait que Rachida Dati ne débarque pas comme ça d'un coin de rue. Donc on est là, on veille et on guette. Je vais vous faire une chanson qui s'appelle 93 Occitanie. J'ai passé près de 40 ans de ma vie en HLM, en Seine-Saint-Denis. Il y a des jeunes de Bobigny ici. Et depuis 12 ans, je suis avignonnais. Et j'ai écrit cette chanson qui raconte la bascule entre le Nord et le Sud. Je vois qu'ici, on a un public très exigeant. Je vais vous proposer une allitération en Ciotte, voir si vous l'avez. Moi, je suis plus de la Ciotta que du côté d'Éric. Ah, Éric Ciotti, vous l'aviez. Moi je suis plus à la Ciotta que du côté d'Éric Ciotti. Mais maintenant que nous sommes là, que nous vivons dans le midi, je me souviens que Massilia me chantait quand j'étais petit les trucs que je ne pigeais pas. C'est excitant l'Occitanie, bram bam bam bam. Moi j'aime bien les étrangers, je les préfère à Estro. Bien. Je ne me sens pas dérangé par les you-you dans les mairies. Un bassin qui aime danser se fait toujours beaucoup d'amis. Le bassin méditerranéen m'a toujours très bien accueilli. Les filles sont belles, ici aussi, elles me rappellent les filles de mon pays. Benvengu, benvengu camarade, benvengu à Kiyochi camarade, benvengu, benvengu camarade, et benvengu collègue. Je
fait des petits ponts à Avignon, crochet extérieur des remparts, on joue au foot entre darons, ça vieillit pas un banlieusard. Et c'est la culture du ballon, ça prend en buvant le Ricard. J'ai pas changé de religion, je porte le t-shirt du Red Star. Vous connaissez le Red Star? D'ailleurs, avec des potes, on a créé une section foot ici, ça s'appelle le RSA. On est tous au RSA. Ça veut dire le Red Star avignonnais. Bien sûr que j'écoutais Akhenaton et Shuriken. Mais pour moi, le rap, c'est Joey Star et Cool Chain, évidemment. Yeah, benvengu, camarade. Benvengu, aokiyotu, camarade. Benvengu, benvengu, camarade. Et benvengu, collega. Aiolien, tu camarade, benvengu au pays, mai paste paqueta grade, loli et lucasanis, este tar esta sagrade, troubadou paradis, cucagne la capitale, pas pareil à qui c'est dis. Est-ce qu'il y a des locuteurs occitans ici? Non? Ah, mais moi en Seine-Saint-Denis, j'ai surtout appris le bambara, le soninke, le berbère, mais il a fallu que je fasse une petite formation accélérée en occitan, ici pour pouvoir chanter devant tous les troubadours. Je quitte le parc de la Courneuve pour les Saintes-Maries de la mer. Toujours ces oiseaux qui m'émeuvent, les migrateurs sont tous mes frères. Et du soleil sur mes nèvres roses, et du mistral dans l'instrument. Et si je vois la vie en rose, y a toujours pas d'arrangement. Une banlieue qui voyage, c'est la famille qui grandit. Toujours dans mes bagages, un peu de là-bas pour ici. Une banlieue qui voyage et on invente un pays. Aujourd'hui, mon village, c'est 93 Occitanie. Moi, je suis plus de la Ciotat que du côté d'Eric. Super.
À la jeunesse, les micros.
Bravo, Thomas Spitio. J'ai bien prononcé votre nom ?
Thomas.
Bravo, Thomas. Bravo. On est toujours au Cloître Saint-Louis, au Festival d'Avignon. Et on continue à parler ensemble de lutte, de réseaux sociaux, de solitude et d'éloignement de la politique. Raphaël Arnaud, vous restez avec nous, bien évidemment. Les autres invités s'installent, qui sont bien évidemment Julien Rocha, metteur en scène, Fanny Caron et Ayub Kalouchi, comédien. Bonjour.
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 Super.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien ?
Bah oui, merci.
Très bien, merci.
Super.
Julien Rocha, vous êtes metteur en scène et auteur, et vous êtes cofondateur avec Cédric Véchambre de la Compagnie des Souffleurs de Verre, basée à Clermont-Ferrand. Vous présentez à Avignon Fake, Microfiction, une pièce traversée de multiples points de vue et interrogations sur nos vies virtuelles. Dans cette pièce, vous rappelez la nécessité de se rappeler de son corps au-delà des mondes numériques qui nous entourent du matin au soir. Et vous créez des tonnes de spectacles sur différents sujets, pour la jeunesse, mais pas seulement. On est ravis de vous avoir avec nous.
Je vous remercie.
Fanny Caron, vous êtes comédienne. Vous avez commencé par hasard à l'âge de 6 ans grâce à une amie de votre mère qui faisait du théâtre amateur. Vous avez adoré ça. Formée au conservatoire de Clermont-Ferrand, vous avez joué depuis dans de nombreuses pièces, aussi bien classiques que contemporaines. Comme vous le dites, vous aimez jouer des personnages parce que ça vous permet d'envisager d'autres vies et d'autres réalités. Vous jouez cet été dans Fake. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Ayub Kalouchi, vous êtes comédien et vous jouez aussi dans Fake, Microfiction. Vous êtes né à Marseille, mais vous avez vécu toute votre vie à Nantes. Vous avez découvert le théâtre à l'âge de 25 ans et vous aimez sortir des représentations sociales en entrant dans de nouveaux personnages. Et vous appréciez l'intensité que ça vous procure de jouer des caractères complexes. On est ravis de vous avoir avec nous.
Merci beaucoup.
Alors avant de commencer notre discussion passionnante, pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs et spectateurs ici, au Cloître Saint-Louis, est-ce que vous pouvez, Fanny, nous jouer au micro quelques lignes du spectacle Fake, Microfiction, écrit et mis en scène par Julien Rocha ?
Eh bien oui, avec plaisir.
Super, je l'ai dit gentiment.
Tu oublies de dire une chose méga importante. Tu parles depuis le début. Tu ne parles que des interactions négatives. Mais il y en a plus. Plus d'interactions positives dans une journée, de likes, par exemple, que de trollage. Si tu ne dis pas ça, tu passes à côté de quelque chose, du savoir commun, qu'on partage à la vitesse de la fibre. C'est extraordinaire ce que l'humanité s'est inventé comme cerveau commun. Un truc très très important, c'est que tout ça, ça nous apporte vachement, beaucoup, très, d'histoire, de mémoire. Tu nous manipules drôlement en ne disant pas ça. Tu ne parles que de ce qui fait mal, uniquement ce qui fait mal, mais le reste. Il est moins important, ce reste. Les heures de vidéo où on se marre, Les heures de musique où on tripe, je me mate des heures de sketch. Les journées entières de Netflix où tu t'accroches. Les personnages sont quand même mieux que ta famille. Et les kilomètres de texto, c'est quoi? C'est idiot. C'est ça que tu penses, c'est idiot, les petits mots d'amour. Les petits mots qu'on s'envoie du kebab, tu les aimes pas? Nos petites interactions, nos partages d'URL, nos flots communs, et tout ce que tu apprends, et les gens, leurs gigas de photos, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des likes et des likes, des gens seuls qui communiquent pour ne pas se sentir seuls. Tu sais, des gens seuls sous les saules pleureurs qui parlent de tout et de rien. Hé, hey, ça gaze. Quoi de neuf? Hé, hey, BG. Salut, meuf. On s'écrit jusqu'à minuit après le live. YouTube me réconforte souvent plus que 1000 hugs.
Mais bon, quand même, tu peux venir dans mes bras.
Merci beaucoup, Fanny.
Et Ayoub.
Merci beaucoup, Ayoub également. Léa, je te laisse continuer.
Merci beaucoup. On se rend compte que les réseaux sociaux, ce n'est pas que du malheur. Ils peuvent, on peut aussi recevoir beaucoup d'amour et donner beaucoup d'amour et ça peut nous rapprocher. Question très rapide pour nos chers invités. Comment vous imaginez le monde si on n'a plus de téléphone connecté à Internet tout le temps? On commence par vous, Julien.
Oh bah pour moi, ça serait très simple, hein, parce que moi, j'ai grandi sans les réseaux, donc ça serait assez simple. Je sais pas, tout à l'heure, vous avez parlé de la nature, mais effectivement, c'est ressourcer par ailleurs, et puis surtout, regarder les gens dans les yeux. Je pense que, voilà, déjà, une petite réponse courte.
Merci.
Waouh, c'est une bonne question. Je sais pas ce que ça deviendrait, je sais pas. On est tellement plongé là-dedans, moi je suis pas née avec, mais enfin quasiment. Mmh.
C'est fou parce qu'on en discutait en préparant l'émission et on se disait, l'humanité a une histoire depuis quand même très très longtemps et ça fait que quelques années qu'on a ce rapport-là hyper connecté. Et c'est marrant que vous ayez cette réponse, c'est que, moi aussi j'ai cette réponse de on sait pas comment est-ce qu'on ferait.
Et toi, Ayoub?
Quand vous avez posé la question, la première chose que je me suis dit, c'est que ça me ferait flipper. Mais je crois que je kifferais quand même. En vrai, ce serait ouf, juste de retourner à écrire. Et que ça me ferait du bien mentalement, avec toute la charge mentale du surplus de l'information continue, je crois.
Clairement.
Et vous, Raphaël?
Ouais, je vais être un peu dans la même obédience. Parce qu'en fait, moi, je suis évidemment très connecté aussi sur les réseaux sociaux, aussi vis-à-vis des activités politiques. Et c'est ce qui m'a le plus mis à l'activité sur les réseaux sociaux. C'est par la volonté de convaincre politiquement et d'échanger politiquement. Mais évidemment, j'ai ce truc de me dire, quand même, des fois, on serait mieux sans. Et on a fait ça en vrai. Même moi, je me souviens quand j'étais petit, pour aller voir des collègues, je les appelais sur le fixe. Souvent, je tombais sur les parents. Je disais, on se retrouve bien à 15h. À 15h, on était là parce que sinon, tu pars une demi-heure. Enfin bref. Donc, je pense qu'on ferait très bien sans. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce monde sans actuellement.
Julien, vous décrivez dans votre pièce les réseaux sociaux comme des espaces de liberté, mais aussi de surveillance. Qui est-ce qui contrôle finalement les réseaux sociaux? C'est les créateurs de contenu? C'est les utilisateurs?
Alors, personnellement, moi, tout ça me dépasse. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage derrière nos écrans de fumée qui en parle et qui le nomme très très bien. Ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je ressens, c'est que je ne me sens pas particulièrement contrôlé, mais je sais que mon pouce, c'est mon cerveau, c'est ce que je dis un petit peu dans le spectacle. C'est-à-dire que je sais que ce que je fais, mes pratiques sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont analysées. Ce sont les algorithmes. Donc, si j'ai envie de dire, quelqu'un me regarde, c'est l'algorithme. Voilà, il n'y a pas un nom derrière. Il y a certainement des noms. Il y a des firmes. Mais voilà, c'est l'algorithme pour moi. Il sait qui je suis.
Alors Fanny, on a appris que vous deviez partir assez rapidement.
Oui, désolée.
Pour ne pas vous embêter, est-ce que vous pourriez nous faire le deuxième extrait de WhatsApp Family?
Alors là, on est quatre.
Oui, bien sûr. Mais ouais. On va accueillir maintenant les comédiens sur le plateau.
Nous, on a plein de followers.
Dans ma famille, ça se passe comme ça.
Les gens nous regardent.
Et nous aussi, on se regarde.
Le matin, on se lève.
On se like.
On se partage
entre nous.
Le matin, on déjeune ensemble dans la cuisine.
Mais on ne se regarde pas.
On s'envoie des selfies. Qu'on like.
Ensuite, chacune part à son boulot.
À l'école.
Au collège.
Au lycée.
Mais on ne se dit pas.
Je t'aime, à ce soir, tu vas me manquer. Passe une belle journée. Non, on ne se dit pas ça.
Car on va pas se manquer.
On est connectés toute la journée.
On peut se suivre via les applis.
On vit comme ça.
Pour nous, c'est normal.
On pourrait pas vivre autrement, faire comme les autres, là.
Non.
Le soir, on se retrouve à la maison et on n'a pas besoin de se parler de notre journée. On est tous au courant. Alors, on se repose, on fait chacune un jeu tranquille de son côté sur son portable.
Soit tous ensemble dans le salon, soit chacune dans sa chambre.
C'est trop stylé.
Des fois, ma mère, elle me dit une phrase comme ça en direct entre deux portes.
Tu t'es brossé les dents.
Pourquoi elle m'envoie pas un snap? Je dis rien. J'envoie un selfie de la salle de bain. Et on va se coucher.
Le soir, des fois, j'entends mes parents se parler dans leur lit.
Qu'est-ce qu'ils se disent?
Qu'ils ne peuvent pas se dire sur le groupe WhatsApp.
Qu'est-ce qu'ils se disent que je ne dois pas entendre?
Qu'est-ce qu'ils veulent garder de secret entre eux, rien qu'entre eux?
Des fois, ça m'inquiète leur truc hors réseau.
Merci beaucoup la team. Et bon rétablissement à toi Fanny.
Vous nous manquerez.
Alors, pour continuer sur notre discussion d'avant, on parlait des réseaux qui étaient quand même un espace de surveillance. Et moi, j'ai vraiment cette impression qu'on est archi surveillé de partout parce que tout est enregistré, que ce soit Instagram, WhatsApp, etc. Et personnellement, moi, je sais que mes appels WhatsApp, ils sont souvent sur écoute quand je suis au Maroc parce que je partage des idées, que je défends certaines causes comme la cause LGBT, etc. Et c'est des idées qui peuvent sembler différentes et c'est des gens qui veulent pas que les choses changent et en tout cas. Mais moi je voudrais vous poser une question et je commencerai avec vous Raphaël. À votre avis, comment on fait pour lutter contre cette oppression digitale en fait qui cherche à nous faire taire?
Ah, c'est dure question. Non, mais je pense qu'il faut en avoir conscience déjà, un maximum. Ça veut pas dire qu'on doit pas les utiliser, preuve en est ce qu'on utilise. En avoir conscience, se dire que l'information aujourd'hui, ça va être le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les États-Unis, on parle beaucoup de leurs forces militaires, etc., ce qui est une réalité. Mais le plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a notre pays, notamment la France, qui a vendu aux États-Unis, des fois à des sommes risibles, l'idée qu'ils pouvaient récolter toutes nos informations, notamment à travers les réseaux sociaux. Ça nous paraît logique aujourd'hui, mais ça n'est pas logique. Ça n'est pas logique que notre pays ait accepté que des grosses entreprises américaines puissent détenir toutes nos informations. Et ça, effectivement, c'est inquiétant. D'autant plus, on voit la situation avec, encore une fois, Donald Trump aux États-Unis. On voit bien la vitesse à laquelle ça va. Pour l'instant, c'est principalement à des mesures pour des raisons économiques qu'on récolte nos informations pour mieux nous vendre, pour qu'on consomme mieux, etc., etc. Mais très rapidement, ça peut être aussi utilisé comme des outils de répression politique, ni plus ni moins. Donc je pense qu'on doit absolument se créer des espaces où on n'a pas besoin justement des téléphones, des réseaux sociaux, etc. Et qu'on laisse... J'essaye de faire ça, il y a des moments où mon téléphone, il est loin. À chaque repas, mon téléphone, il est loin. Voilà.
J'ai une petite question, juste Raphaël. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur les plateformes qui sont possédées par des milliardaires? Je pense à Instagram, enfin toute la suite Meta. Ou est-ce qu'il faut passer sur des alternatives, je sais pas, Blue Sky?
Ça, c'est un vrai débat. Hein, comme là, vous avez parlé de Sophie Binet sur CNews, etc. Je suis plutôt d'accord avec cette idée qu'il faut pas aller sur CNews. Mais sur les réseaux sociaux, pour l'instant, il y a encore une certaine forme de liberté. Je dis bien encore parce que ça peut aller très vite et ça va déjà vite. On a bien vu sur la question du génocide à Gaza, Instagram notamment, il y a eu déjà une forte répression sur Instagram. Mais il y a, je pense qu'il y a encore bataille à mener là dans ces espaces parce qu'il y a énormément de monde et qu'il faut qu'on y soit pour mener bataille. Mais ça pose plein de contradictions par contre. Hein. C'est pas ad vitam aeternam. Et surtout, dès qu'on a des autres alternatives, c'est surtout ça qu'il faut chercher. C'est quelles alternatives. Et dès qu'on en a des autres, par contre, il faut les investir à un max. Voilà.
Je vous repose la même question, Julien.
Bah moi, c'est le spectacle, c'est-à-dire pour moi, créer le dialogue avec la jeunesse, c'est pour moi aussi proposer une alternative. Déjà, se poser la question de nos façons de faire, de ce qu'on utilise. Voilà, le spectacle a en lui du paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, des personnages ont l'air de surfer sur la vague des réseaux. Il y a des personnages qui se posent la question de l'utilité de ces réseaux ou même de nos prisons volontaires qui sont imposées ou impulsées par ces réseaux. Voilà, j'ai l'impression que le fait de faire ce spectacle, d'aller rencontrer la jeunesse, on a aussi une petite forme qu'on joue dans les lycées et les collèges, et ben c'est suivi à chaque fois d'un débat. C'est créer du questionnement, en fait. parce que je ne peux pas arriver avec une mallette de pensée. J'ai l'impression que la mallette, elle se fait avec les gens, quoi.
Moi, je pose la question à vous, Julien et Ayoub. Comment on garde la flamme d'un combat collectif quand l'ennemi, lui, il devient algorithme virtuel ou souvent caché derrière des pseudos?
Bah, mon art, il est un peu archaïque. C'est-à-dire que mon art, il existe depuis très longtemps. Parler aux gens, se retrouver, l'éveiller, discuter après avoir joué, raconter des histoires. Donc je ne me sens pas en danger par rapport à mon art. C'est peut-être terrible d'ailleurs, peut-être j'ai tort, hein, mais j'ai l'impression que les gens auront toujours besoin de se retrouver et d'échanger en direct. Voilà.
Moi, je dirais, ça m'a fait penser à une phrase d'Abdel Malik, qui est un auteur et metteur en scène aussi, et rappeur, qui avait dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. » Et je crois que je crois aux forêts et pas aux arbres qui tombent. Et le collectif, pour moi, et la vie, là, c'est la forêt pour moi. Et les réseaux, c'est des arbres qui tombent. Je sais pas si je scrolle sur X ou sur Insta, des réseaux dirigés par des milliardaires et tout ça. Et ben effectivement, je vais voir pas mal de haine. Mais en vrai, si je vais dans la rue et que je sors, il y a plein de sourires qui s'échangent, des regards et tout ça. Et je crois aux forêts plutôt qu'aux arbres, en fait, je crois.
On a très souvent des images et des étiquettes qui nous collent à la peau et qui peuvent venir de différents endroits, mais surtout même dans la rue, en face, quand on rencontre des gens, etc. Et du coup, ma question, c'est est-ce que les réseaux, ça peut être une manière de briser en fait ces images et de les défier un peu et de rivaliser avec? Je sais pas, je pose la question.
Ouais, mais non, mais c'est pas facile. Enfin, on a tous envie de, je sais pas, d'être bien sur les réseaux, j'en sais rien, mais la question de l'image, elle est hyper importante, et je rebondis sur Julien tout à l'heure qui parlait d'une des nouvelles formes, la forme dans laquelle je joue. Je suis en direct sur Twitch, et en fait, je pose la question de l'identité. Je demande aux collégiens et aux collégiennes de regarder, de prendre leur téléphone et de regarder un de leurs selfies et de leur demander est-ce que c'est vraiment ces personnes-là dans leur téléphone et elles-mêmes, est-ce qu'elles sont pas justement une pluralité de personnes? Et des jours, vas-y, je suis ça, et d'autres jours, je suis autre chose.
Voilà. Et vous avez des réponses de ces gens ou
Des réponses, non, enfin, mais
sur le chat, je sais pas.
Ah oui, en direct, ouais. De plus en plus, il y a de collégiens et collégiennes qui s'abonnent et du coup qui sont en direct et qui font surtout des dédicaces à leur classe, et okay. C'est super.
C'est trop mignon.
Moi, je voudrais vous poser une question. On a tous en fait une identité en ligne qui est complètement différente les uns les autres. Moi, des fois, enfin, il y a des gens que je connaissais pas, que je connaissais juste leur name sur Instagram, et on s'appelait que comme ça. Du coup, c'est même ta propre identité qui se perd. Et on peut faire énormément de choses à travers cette identité-là qu'on se crée. Mais est-ce que ça veut dire qu'on devient tous des menteurs pathologiques?
Ben c'est un peu ce qu'on formule hein, dans Fake, hein, c'est-à-dire que déjà le fait de se choisir une photo de profil, c'est déjà un pas vers le fake, hein, parce que ben est-ce que c'est soi ou est-ce que c'est la version de soi qu'on admet et qu'on va offrir au regard du monde, des autres, des followers, etc. Donc oui, à partir du moment où on a un profil, on a un avatar, parce que soi-même, la complexité, la multiplicité d'un être, je ne pense pas que ça puisse se réduire sur un profil, quel qu'il soit, Insta, etc.
Juste avant, vous parlez, Julien, de l'endorphine du plaisir à être sur son téléphone. Mais il y a aussi tellement d'infos négatives sur les réseaux qu'on peut penser que ça va pousser à la montée de la peur ou de la colère. Comment on met en place des actions concrètes au lieu de s'énerver et cracher sa haine en ligne? Quand on peut voir, j'utilise comme exemple le réseau sur X, on voit beaucoup de haine. Comment on peut mettre en place des actions pour contrecarrer ça?
Non, mais c'est peut-être par rapport aux politiques. Des fois, on se pose la question de savoir si les réseaux doivent être interdits. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Est-ce qu'ils doivent être interdits aux mineurs? Est-ce qu'ils doivent être interdits aux moins de 14, 13, 16? On se pose la question parce que, en vrai, on aimerait bien légiférer là-dessus.
Bah, personnellement, je trouve que interdire, c'est une solution qui est hyper simple. Simple, pas concrètement, mais c'est vraiment choisir la facilité, je trouve. C'est vraiment il y a un problème, ben on va enlever toute la source du problème, alors que en fait c'est pas comme ça. Enfin, moi j'ai grandi avec Internet, ce serait un peu ridicule de me dire ah non mais toi tu vas grandir comme nous on a grandi, alors que nous, enfin une nouvelle génération, elle vient avec une nouvelle façon de grandir, une nouvelle façon de voir le monde. Voilà, après il y a sûrement d'autres contre-arguments, mais en tant que jeune de 19 ans, c'est une proposition qui elle me convient pas du tout.
Raphaël, je vois que vous avez pris plein de notes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Je vais pas lire toutes mes notes parce que sinon on en a pour une heure. Non, mais c'est juste du coup évidemment. Enfin, c'est super intéressant ce débat parce qu'il pose plein de questions, plein de contradictions, etc. Je pense qu'il y a aucune réponse toute faite. Juste à la question, est-ce qu'il faudrait interdire ou non les réseaux sociaux? Je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux rester sur la question de la prévention. Plus on va donner d'outils de compréhension de justement les problématiques que posent les réseaux sociaux, etc., plus c'est intéressant. La question de l'information, évidemment, est le nerf de la guerre. On le voit bien avec des milliardaires qui rachètent tout, même les réseaux sociaux, même des comptes sur les réseaux sociaux qui marchaient bien. Je pense à Serfia sur Twitter, etc. Mais par contre, évidemment, d'avoir nos propres espaces de compréhension de ce qui se passe, nos propres outils d'information, les réseaux sociaux ont aussi permis ça. Il y a plein d'exemples qui ont montré ça ces dernières années, ces derniers mois. Donc c'est tout un tas de choses. Et juste dans les différentes questions qui ont été posées, je pense que des fois, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et en réalité, il y a plein de choses qu'on focalise sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, elles existent depuis le début de l'humanité, parce que c'est nos fonctionnements sociaux qui, juste, des fois, sont accentués par les réseaux sociaux, mais qui existent déjà. La question d'échapper à la réalité, vous y avez répondu en partie. Il y avait plein de façons d'échapper à la réalité avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne nous orientent pas vers ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas, etc. Mais en réalité, la société était déjà comme ça aussi. On a des trajectoires sociales, c'est la sociologie qui nous l'apprend, les gens qu'on fréquente, etc., sont conditionnés, sont déterminés déjà socialement, etc. Bon, bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui existaient déjà. La question de l'identité aussi, en dehors des réseaux sociaux, évidemment aussi que dans une conversation, on utilise des mots pour se présenter, on utilise une façon d'être, une façon de s'habiller, une façon de renvoyer des choses, etc. Donc là aussi, il y a du paraître, là aussi, il y a une façon de s'inventer face à l'autre, etc. Donc voilà, juste, c'est très intéressant qu'on fasse une focale sur les réseaux sociaux, mais pas surtout penser que c'est que les réseaux sociaux qui ont amené ces problématiques-là. Elles existaient évidemment antérieurement à la question des réseaux sociaux, mais d'autant plus de vigilance parce que ça accentue tout, je dirais.
Conclusion parfaite.
Ouais. Les amis, on arrive à la fin de notre émission, le don du vide. Merci beaucoup à Imen, Léa, Martin et Noan de m'avoir accompagné sur le plateau. Franchement, je n'aurais pas réussi tout seul. Hein. Mes remerciements également à Raphaël Arnaud, à Julien Rochat, à Ayoub Keloshi et à Fanny qui nous a malheureusement quittés. Parce qu'elle...
Oula le...
Non, mais...
Peut-être pas dans ce sens-là, Nil.
Pas de ce sens-là, évidemment. Elle n'est pas morte. Hein. Elle est partie sans ça.
Allez, Nil, ça va aller.
Oh bon sang, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Là, on est...
Notre invitation à la discussion, désolé.
Bon. Vous pouvez retrouver Fake Microfiction à la Factory au Théâtre de Loul jusqu'au 24 juillet à 15h35. Et vous pouvez retrouver Raphaël Arnaud dès la rentrée à l'Assemblée nationale. Merci au public et à nos auditeurs pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit, au Cloître Saint-Louis à 18h pour notre dernière émission qui aura pour sujet les nouveaux messieurs. On sera avec les frères dominicains Thierry Hubert et Charles Desjobert et le metteur en scène des Incrédules, Samuel Achache, et les comédiens de la comédie française, Edith Proust et Seba Yeboa. Wouh ! Merci Nilions de m'avoir mis dans ce pétrin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à demain.
C'était Making Waves Avignon, à la Jeunesse Les Micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025
lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les Micros.